Chapitre 26e. Quand je me réveillai, Roger et son oncle parlaient toujours. Je me levai d'un bond en me frottant les yeux. Monsieur Roger me conduisit dans une chambre. Je lui dis que je ne voulais pas me coucher. En réalité, je tombais de sommeil, mais avant de dormir, j'aurais voulu être seul un instant avec Roger, lui demander ce qu'il comptait faire, et surtout ce que son oncle avait dit de moi. Monsieur Roger referma la porte tout en restant avec moi dans la chambre. Je pensais qu'au fond, c'était quand même un brave homme. Il avait beau être idiot, il ne m'en offrait pas moins l'hospitalité sans me connaître, et il me traitait comme si j'étais son fils. Il me montra tous les détails de la pièce. Il me signala, bien que je fusse sans bagage, qu'il y avait une armoire. Il me recommanda de ne pas me servir de la clé de cette armoire pour essayer d'ouvrir les tiroirs de la commode. Tout à coup, il me dit qu'il comprenait très bien que je me fusse endormi, que je n'avais pas besoin de m'excuser. Puis, malgré son veston bordé de ganses, il se baissa, roula la descente de lit et la rangea. Je le regardais faire avec une profonde lassitude. Toutes ses préoccupations étaient tellement loin de moi. Il me dit que c'était une descente de lit de grand prix. Il allait sortir lorsqu'il revint pour examiner le lit. Je ne sais pas ce qu'il aperçut, mais il appela aussitôt la femme de chambre et il la pria de changer une couverture. Elle revint avec une couverture d'un blanc gris portant des empreintes de fer à repasser, qu'elle mit à la place d'une autre épaisse et neigeuse. Puis il me dit de ne pas mettre mes vêtements dans l'armoire quand je me déshabillerais. Il ajouta que tout cela n'avait aucune importance pour moi, mais que ça en avait une grande pour lui. Il me demanda encore de ne pas m'asseoir dans le fauteuil. Il se mit devant, comme devant la porte d'une salle de bain où une femme se dévêtirait. Il s'en voulait de me faire tant de recommandations, mais il ne pouvait mettre à ma disposition que cette chambre, et cette chambre était celle où son pauvre père était mort. Je lui dis que s'il le préférait, je pouvais très bien coucher sur le divan du bureau. Il parut ne pas m'entendre. Quand je fus seul, je me dis que j'avais affaire à un maniaque. Comme beaucoup de gens qui compliquent tout, il ne s'intéressait pas aux grandes choses et il m'offrait, sans s'en douter lui-même, la plus cordiale hospitalité. Roger m'avait montré qu'il ne fallait pas prendre cet homme au sérieux. La seule crainte que j'avais, c'était que la police se doutât de notre présence ici. L'honorabilité n'était plus comme jadis une protection. C'était sous un autre angle qu'on examinait les gens. Je dormis jusqu'au lendemain matin d'un trait, soit 22 heures. Je fus réveillé par des coups frappés à la porte et j'eus conscience qu'ils avaient été nombreux. C'était M. Roger. Il était vêtu exactement comme la veille. On eût dit qu'il ne s'était pas couché. Je sentis que, pour un homme pareil, les événements d'une journée n'avaient aucune répercussion sur le lendemain. Il me demanda si j'avais bien dormi. Il me parla du beau temps, mais il attacha beaucoup plus d'importance à la réponse que je fis à une question qu'il me posa ensuite au sujet du lit. Celui-ci était très bon. Monsieur Roger me le fit dire plusieurs fois. Puis il m'expliqua comment je devais m'y prendre pour faire ma toilette. Avec toutes sortes de ménagements, il me pria d'aller me laver à la cuisine. La cire était devenue rare et il craignait que les éclaboussures ne tachassent le parquet. Il fit le simulacre de sortir pour me permettre de quitter le lit. Comme j'avais les jambes dehors, il revint. Il avait oublié de me parler du petit déjeuner. Qu'est-ce que je voulais prendre ? Je lui répondis que tout me paraîtrait délicieux. Il me fit remarquer que je n'avais pas le choix, que la population soi-disant libre n'avait rien de plus à se mettre sous la dent que les prisonniers. Quand je revis Roger, je lui racontai ce qui s'était passé. Il me donna le conseil suivant. « Tu dis toujours oui, et tu n'en fais qu'à ta tête. » Roger m'avait dit que son oncle me donnerait des vêtements. Les miens attiraient vraiment trop l'attention. C'était ceux avec lesquels j'avais fait ce qu'on appelle la campagne 39-40. Je les avais portés sur la ligne Maginot, dans les camps, sur les chantiers. Je les avais coupés ensuite, modifiés, pour tâcher de leur ôter leur aspect militaire. Le plus voyant était le pantalon dont j'avais décousu le bas et que je n'avais pas su recoudre, si bien qu'on apercevait un peu de ma jambe au-dessus des souliers. M. Roger les trouvait encore très bien. Il fallait simplement changer certaines petites choses. Il me donna un pantalon. J'eus alors l'occasion de constater combien il est difficile, en toutes circonstances d'ailleurs, de se faire donner en une fois tout ce dont on a besoin. Je dus lutter pour chaque pièce de mon habillement. Je n'étais qu'à moitié vêtu que je commence à paraître abusé. Monsieur Roger demanda à d'autres gens de participer à l'effort qu'il faisait pour moi. Je pensais que ses amis allaient le trouver bien avare, mais à mon grand étonnement, ils ne parurent pas le moins du monde surpris par sa conduite. Mieux même, ils s'en inspirèrent, demandant à d'autres gens encore de me venir en aide également. Cela me donnait des inquiétudes de plus en plus vives. Ces dons individuels prenaient l'allure d'une collecte. Tout le monde avait un ami prêt à me donner ce qui me manquait. J'essayais de faire comprendre à Roger le danger que cette bonne volonté nous faisait courir. Trop de gens finiraient par savoir que nous étions à Bruxelles. Cela se terminerait par une dénonciation. Il me répondit que nous n'avions rien à craindre, que je n'avais en attendant qu'à accepter tout ce qu'on m'offrait. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Monsieur Roger se mit brusquement à critiquer ces mêmes gens qui l'alertaient pour moi. À l'entendre, il se conduisait d'une façon honteuse avec un brave garçon comme moi. Il me donna l'ordre de tout refuser dorénavant. Je pensais que je m'étais trompé sur son compte, que c'était un homme qui avait du caractère, qu'il était écœuré de voir ses amis se faire tirer l'oreille de cette façon, qu'il allait faire lui-même le nécessaire. Mais à ma grande surprise, il me proposait une solution encore pire que la première. Grâce à un papier qu'il me ferait obtenir, je pourrais passer pour nécessiteux et obtenir ainsi des autorités des bons d'habillement. En fin de compte, je me trouvais vêtu de la façon la plus étrange. Un par-dessus à deux longues rangées de boutons avec un col de pluche imitant l'astrakhan, le pantalon ayant appartenu au père de M. Roger, d'excellente qualité mais exagérément étroit dans le bas, des bottines très fines de chevreau en bon état, quoique craquelées, et très longues du bout. Quant au veston, il était de l'époque où on les faisait avec des petits revers. J'essayais de les déformer, mais la sparterie, comme tout ce qu'on m'avait donné d'ailleurs, était d'excellente qualité et les revers reprenaient toujours leur forme primitive. Ainsi accoutré, je sortais le moins possible. Quant à Roger, qui n'avait pas été plus favorisé que moi, il s'arrangeait pour porter toutes ces vieilleries avec une certaine élégance.